Tendance Info. Le décryptage éco avec Esker, votre partenaire dématérialisation pour vos commandes et factures en France et dans le monde. Retrouvez-nous sur esker.fr, E-S-K-E-R.fr.
Le débrief éco du dimanche soir en partenariat avec le Cercle des économistes. 20 minutes de débat sur les grands thèmes sociaux et économiques qui vont alimenter la campagne électorale. Bonsoir Emmanuel Cugny.
Bonsoir Catherine, bonsoir à tous.
Alors le premier débat de ce soir, ce sera sur l'avenir de la sécurité sociale. Des nuages ou un grand soleil?
Oh ben écoutez, la ministre de la Santé, Marisol Touraine, a présenté mercredi dernier en Conseil des ministres le dernier projet de budget de la Sécu, du quinquennat, promettant à quelques mois de la présidentielle un quasi-retour à l'équilibre des comptes, mais au prix d'économies renforcées, a-t-elle dit, dans la santé. Alors pour 2017, le déficit du régime général devrait être ramené à 400 millions d'euros contre près de 3,5 milliards en 2016, au prix de sérieuses économies qui font grincer les dents, des médecins, des labos entre autres. Alors quid du patient dans tout cela? Tenir les objectifs possibles, impossibles, c'est tout le débat.
Bien avec nous ce soir pour en débattre justement Jean-Hervé Lorenzi, bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes président du Cercle des économistes et face à vous Bernard Spitz du think tank Les Gracques. Et pour lancer ce débat, je voudrais qu'on écoute Marisol Touraine, la ministre de la Santé et des Affaires Sociales.
Je veux dire aux Français qu'ils peuvent plus que jamais avoir confiance dans l'avenir de la sécurité sociale. Les efforts que nous avons assumés depuis 2012 ont payé. Pour l'année 2017, le régime général de la sécurité sociale sera quasiment à l'équilibre. On peut considérer que le trou de la Sécu sera derrière nous.
Ayez confiance. Marisol Touraine dit vrai quand elle promet la disparition du trou de la Sécu en 2017, Jean-Hervé Lorenzi.
Écoutez, on peut toujours imaginer que, au fond, il y a un aspect un peu électoral dans la présentation des choses et il y en a forcément une partie des résultats qui sont liés à ça. Mais dans l'ensemble, quand on regarde de très près ce qu'on appelle la sécurité sociale, c'est-à-dire l'ensemble des dépenses de protection sociale, sauf les allocations chômage, qui sont en dehors du dispositif.
C'est-à-dire la vieillesse en plus, etc.
Oui. Tout ça est quand même l'un dans l'autre, pour une fois, plutôt une bonne nouvelle. Donc il faut arrêter de pleurnicher sur ces sujets. C'est plutôt un ralentissement dès 2016. Donc, vous savez, on est toujours inquiet sur ce qu'on annonce sur 2017, parce que 2017, de toute façon, ne sera pas la même équipe, quoi qu'il arrive, exactement, qui sera en charge pour la moitié de l'année. Mais 2016, c'est déjà ralenti de manière très, très forte. La dette, ce qu'on appelle la dette sociale liée à ça, est en très légère diminution. Donc, vous voyez, tout ça n'a rien d'exceptionnel. Il reste une très grosse dette, un stock de dette qui est important, mais c'est pas si mal que ça.
Bernard Spitz, d'accord, pas d'accord?
C'est ni gris, ni blanc, ni noir. C'est-à-dire que lorsqu'on raisonne dans la photographie actuelle, oui, il y a une amélioration. Si on se projette dans des dynamiques à quelques années, les choses sont moins claires. Parce que le problème de l'ensemble, d'abord, c'est qu'on additionne des choses qui sont très différentes. Et si on peut dire qu'en matière de maladie, il y a eu des progrès incontestables, en matière de retraite, il y a des problèmes incontestables, en matière de maladie, on est loin de la solution. Donc on a des éléments qui viennent s'effacer, on a une dynamique qui est quand même très liée avec des recettes qui ont tendance à diminuer du fait de la faible croissance, en tout cas de ne pas augmenter assez du fait de la faible croissance, du fait du chômage, et des dépenses qui augmentent, elles, parce que la population vieillit, c'est pas Jean-Hervé Lorenzi qui me dira le contraire, et parce que donc les dépenses médicales augmentent.
Comment doit-il le prendre?
Il a parfaitement raison, mais je lui renvoie le compliment.
Oui. Alors, réduction du trou de la Sécu au prix d'importantes économies, a dit Madame Touraine, 4 milliards d'euros. Qui sont les victimes? Qui vont être les victimes? Les patients, les médecins libéraux, les hôpitaux, les labos? Jean-Hervé Lorenzi.
Un peu tout le monde. Et si on reprend les affaires, on a quand même un système de santé qui est top. Il faut arrêter là aussi de toujours limiter les qualités de ce qu'on a. Il y a des chiffres très évidents. Combien de temps on vit, et j'espère que ce sera le cas de Bernard et de moi, en bonne santé, avec ce qu'il m'a dit tout à l'heure. Il se trouve qu'on est quand même dans les très bons. On avait un système de labo, d'industrie pharmaceutique qui était très puissant. Ça, il est vraiment en train de diminuer. Et donc, s'il y avait une première victime, ce serait celle-là. La deuxième victime, ce sont les laboratoires.
La recherche, l'innovation.
Non, surtout l'industrie pharmaceutique, qui était la première en exportation en Europe et qui a perdu ce rang-là. Deuxième aspect, évidemment, la médecine libérale.
Moi, je crois qu'il y a quand même deux trous dans cette approche. Le premier trou, c'est la prévention. Tout le monde sait que la prévention, ça coûte cher à l'instant T, mais ça permet de faire des économies sur 20 ans, sur 30 ans. Des enfants qui sont bien soignés sur le plan du dentaire feront moins de caries et auront une hygiène par la suite qui sera meilleure. Et globalement, on sera gagnant. Or, comme on raisonne sur l'annualité budgétaire et qu'on a les yeux fixés là-dessus, on ne dépense pas assez sur la prévention. La seconde chose, c'est l'innovation. Nous avons besoin d'un système qui tire tout le profit des innovations, notamment en matière de données de santé, etc. Et nous n'allons pas assez loin. Troisième sujet, ça va être quand même un sujet important, c'est celui des restes à charge. Parce qu'on a bloqué, on a plafonné le remboursement par les complémentaires avec l'idée que, en plafonnant ça, les professionnels diminueraient leurs tarifs. Et ça, c'est un pari perdu d'avance parce qu'en fait, ça ne tient pas compte du fait que certaines spécialités sont en déséquilibre total. Prenez les ophtalmos, il faut 4 mois pour avoir un rendez-vous dans un chaîne d'ophtalmo à Paris. Pensez qu'en plafonnant la complémentaire, l'ophtalmo va baisser son tarif, c'est une illusion. Donc on risque d'avoir un choc d'augmentation du coût par les patients eux-mêmes de la Sécu.
Donc là, ce que vous venez de nous dire, en fait, Bernard Spitz, c'est vraiment une ébauche de réforme, c'est celle que vous souhaitez. Est-ce que oui?
L'ébauche de réforme, c'est d'aller plus loin, c'est-à-dire d'investir sur l'avenir en tenant compte effectivement de la nouvelle. D'abord en mettant le paquet sur la prévention, parce que c'est plus d'argent dépensé aujourd'hui, mais c'est infiniment d'argent gagné demain. En mettant l'accès sur les nouvelles technologies, et effectivement, en ayant une acceptation plus large du fait que les remboursements, se reporter à travers le transfert sur les patients pour combler les trous.
Jean-Hervé Laurenzi, la place de l'assurance privée dans tout ça, vous la voyez comment, à terme? Parce que c'est l'un des gros débats.
Oui, c'est un des gros débats. Si elle doit prendre, et de toute façon, elle prendra une place plus importante, il est clair qu'il faut qu'elle puisse participer à la gestion, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui. Les complémentaires maladies ne donnent pas, dans les faits, les indications, n'en regardent pas. Ils se contentent en réalité, pour le moment, ils se contentent, parce qu'ils ne peuvent pas faire autrement, de se retrouver en complément de financement, point. Donc tout ce système, là où je suis assez d'accord avec Bernard, mais pas être tout à fait sur les mêmes problèmes, mais c'est vrai que ça manque de perspective. Je rajoute un élément évident, c'est qu'il y a des endroits où il n'y a pas assez d'hôpitaux, et des endroits où il y a trop d'hôpitaux ou qui ont peu finalement d'opérations. Vous savez que c'est dangereux. On l'a vu encore il y a quelques jours pour quelque chose qui a l'air très grave. Donc, en réalité, les réformes ne sont pas au rendez-vous. Ça,
on parle beaucoup du passé. C'est vrai qu'on pense pas toujours à l'avenir.
Les GRAC avaient une proposition là-dessus. Ils proposaient que dans les endroits où les hôpitaux, quand les élus s'opposent à des réformes en matière de cartes hospitalières, eh bien, on demande qu'ils se fassent eux et leurs familles soignés dans les hôpitaux en question. Comme ça va régler le problème, tôt ou tard.
Merci à vous de vous rester avec nous, bien évidemment, dans un instant, la deuxième partie de ce débrief éco. Deuxième partie de ce débrief éco du dimanche soir avec Emmanuel Cugny, Jean-Hervé Laurenzi, le président du Cercle des économistes, et Bernard Spitz du Cercle de réflexion, les GRAC. Alors on va parler des banques, des banques européennes maintenant, Emmanuel. Depuis plusieurs semaines, les rumeurs les plus folles tournent autour de la viabilité des deux principales banques allemandes. Oui. Des interrogations également sur les banques italiennes. Est-ce qu'on s'achemine vers une nouvelle crise bancaire?
Écoutez, ce qu'il se passe en ce moment en Europe prouve qu'à défaut d'être fragile, le secteur bancaire européen reste vraiment vulnérable. Les principales préoccupations, vous le disiez, viennent des banques allemandes. Donc la première, la Deutsche Bank, et la seconde, Commerzbank, ça va de mal en pis pour elle. Le plan de restructuration drastique, moi aussi j'aurais besoin d'un plan de restructuration, jusqu'à 9000 suppressions de postes prévues. La Deutsche Bank pèse aujourd'hui 3 fois la tristement célèbre Lehman Brothers. Alors on imagine évidemment l'impact d'une explosion de la Deutsche Bank. Ajoutez à cela les banques italiennes, dont la plus vieille, d'ailleurs la Monte dei Paschi, qui nécessite un plan de soutien important. La question est donc de savoir si on est au bord de ce que l'on appelle une crise systémique avec effet boule de neige en Europe.
Tiens, on va écouter Jean-Paul Paulin. Il est professeur d'économie à Orléans, à l'Université d'Orléans. Et il estime que les États ne devraient pas intervenir pour sauver le secteur bancaire. Les États, ça veut dire les contribuables.
il y a un an et demi, on a mis en place l'union bancaire. Et cette union bancaire, parmi ses principes, il y a l'idée que on ne sauverait plus les banques. C'est-à-dire que ce sont les créditeurs désormais des banques qui devraient prendre en charge les pertes, mais plus les États. Quand les banques vont mal, il y a une sorte de cercle vicieux qui fait que la mauvaise santé des banques fait la mauvaise santé des finances publiques et réciproquement.
Bernard Spitz, est-ce qu'on est en train de revivre les prémices d'un nouveau Lehman Brothers ? On se souvient de cette faillite retentissante de la banque américaine ?
Très clairement, non. Pourquoi ? Parce que la situation de la Deutsche Bank n'a rien à voir avec la situation de Lehman Brothers, parce que la situation des banques en 2016 n'a rien à voir avec la situation de 2008. Bon, dire que pour autant, tout va pour le mieux dans le meilleur des mondes, ça serait exagéré, mais on ne peut pas faire cette comparaison. Pourquoi ? Parce que la Deutsche Bank, d'abord parce que les banques européennes ont beaucoup plus de fonds propres, enfin, un certain nombre de décisions qui ont été prises depuis 2008 ont quand même changé la donne et ont obligé les banques à avoir beaucoup plus de fonds propres. Et c'est le cas de la Deutsche Bank, parce qu'elles ne sont pas...
C'est-à-dire qu'elles aient plus d'argent dans les caisses qu'elles n'en ont d'engager à l'extérieur, en
oui,
cas de coup dur.
Oui, et elles ont réduit leur bilan. Et puis par ailleurs, elles ont, dans le cas de... Il est très clair, pour reprendre la discussion qu'on avait avec l'économiste tout à l'heure, qu'il y a des actionnaires. L'économie allemande est en bonne santé et la Deutsche Bank a des actionnaires qui ont l'air insuffisamment solides pour renflouer les choses. Qu'est-ce qui s'est passé ? Il s'est quand même passé un petit événement exogène, comme on dit, c'est-à-dire que tout d'un coup, les Américains ont dit « Ah ben voilà, ça va faire 14 milliards d'amendes ». Alors évidemment, parce que vous arrivez avec 14 milliards d'amendes du jour au lendemain, donc ils en ont provisionné 5, et s'ils doivent faire augmenter leur capital, et ben ils augmenteront leur capital. Il n'y a pas d'inquiétude à avoir, de mon point de vue, sur ça. Par contre, évidemment, il y a tout en Europe, il y a une situation financière avec qui marche le cul par-dessus tête, avec des taux d'intérêt négatifs, tout ce que ça entraîne. Donc la rentabilité des banques, elle est très affectée, et c'est ça le sujet.
Je ne suis pas d'accord du tout avec ce que vient de dire Bernard.
Donc on est dans la panade ?
Ce n'est pas les banques européennes. Je veux dire, arrêtons, là on parle du système allemand.
Alors est-ce que les banques allemandes vont créer un problème ?
Le système financier allemand est très particulier. C'est celui, en réalité, qui, en Europe, étant donné son importance, évidemment, puisque c'est la première économie européenne et proportionnellement à son rôle très fragile, il n'y a pas que l'affaire américaine. Les difficultés, les provisions, la Deutsche Bank a déjà provisionné un peu plus de 5 milliards d'euros pour toutes les critiques qui lui sont faites, notamment sur les affaires d'argent sale.
Ça prouve qu'il y a un problème.
Mais ça ne va pas exploser. Ah. Parce qu'évidemment, le gouvernement allemand va intervenir comme
Madame
il l'a fait.
Merkel a dit non.
Mais elle n'a pas dit non. Mais c'est normal qu'elle dise non. Il y a ce qu'on appelle l'aléa moral. C'est-à-dire que si vous dites à chaque fois que vous allez prendre en charge le dispositif, évidemment, tout le monde fait n'importe quoi. Ils le prendront en charge. Deuxième aspect, comme ils l'ont fait pour Commerzbank. Commerzbank, je vous rappelle que c'est une entreprise qui a racheté Dresdner, mais dans lequel l'État allemand a une participation importante, etc. etc. Donc, cette histoire, là où je suis d'accord avec Bernard, on ne va pas du tout à la fin du monde. On va dans un dispositif de financement en Europe qui est exactement, je reprends sa formule, on marche sur la tête. Par ailleurs, la finance, non pas européenne, parce que nous avons, nous, Français, un très bon système financier. Il y a le financement allemand pose problème.
Les stress tests,
et
oui.
Il y a un petit paradoxe, et je termine là-dessus, c'est que M. Schäuble, qui est le paragon de vertu absolue, nous a expliqué la vérité du matin jusqu'au soir, ce que nous devons
faire.
Le ministre
allemand de l'économie.
Devrait peut-être, le ministre allemand, regarder comment fonctionne son système financier.
Bernard Spitz, est-ce qu'il n'y a pas trop de banques en Europe aujourd'hui ? Récemment, Mario Draghi, le patron de la BCE, a dit « Oh là là, il y en a peut-être un peu trop, ça pose problème ». Alors, il n'est pas allé plus loin, mais bon.
C'est un marché, il y aura des phénomènes de concentration là où il doit y en avoir, et chaque pays est très différent. C'est vrai que vous avez en Allemagne une très grosse banque et puis ensuite un système qui est éparpillé.
Donc il faut rationaliser tout ça ?
Il faut rationaliser.
Il faut couper les têtes ?
Mais c'est pas comme ça que ça marche. Il y a des banques qui sont bien gérées, même si elles sont petites. Il y a des banques qui sont mal gérées, même si elles sont grosses. Et il est normal que ceux qui font des erreurs les payent. Mais encore une fois, on n'est pas du tout dans la même situation qu'en 2008.
Donc pas de crainte, oui.
Là, je suis d'accord avec Bernard. Hein. Il ne s'agit pas de dire qu'on va avoir la même situation qui a été évidemment très puisque on n'était pas tellement préparé à cette crise. Cette fois-ci, on l'est. Mais de là à expliquer que le système que Deutsche Bank, dirigé par un homme qui quand même a une force dans le déni qui est très exceptionnelle, je trouve qu'il vaut mieux être prudent.
Bernard,
nous avons en France des patrons de banque qui sont des patrons de banque très responsable. Je souhaiterais que nous ayons la même chose outre-Rhin.
Bernard Spitz. Oui, je vais reprendre le compliment des patrons de banque pour dire qu'aussi en matière d'assurance, on peut faire le même constat, c'est-à-dire que les Allemands ont aussi un système financier qui s'est engagé de façon inconsidérée dans les années précédentes sur des taux à emprunt, à des taux garantis, qu'il a aujourd'hui les plus grandes peines du monde à honorer.
Très rapidement, très rapidement, Jean-Hervé Lorenzi, Bernard Spitz, est-ce qu'il n'y a pas le signe là de l'échec de l'union bancaire dont parlait Jean-Paul Pollin ? Rapidement. Est-ce que ce n'est pas le signe de l'échec ?
Non, sauf que Jean-Paul a une vision, j'allais dire, très angélique du sujet. Il faut évidemment que les États interviennent s'il y a un problème.
Bernard Spitz.
Ce n'est pas l'économie qui doit, de ce point de vue-là, remplacer le politique. On a un vrai problème en Europe, c'est une absence de leadership politique pour donner des règles du jeu qui permettent ensuite à l'économie de fonctionner. C'est ça le problème. Ce n'est pas les banques, c'est la politique.
Merci à vous trois, Merci Jean-Hervé Catherine. Lorenzi, président du Cercle des économistes, Bernard Spitz du Cercle de réflexion Les Gracques, et vous, cher Emmanuel Cugny.
À la semaine prochaine.
À la semaine prochaine.
Avec plaisir.
À dimanche prochain. Bonne soirée.
France Info Météo.